Bonjour la Méditerranée, les Méditerranéens, les Méditerranéennes, bonjour à tous nos auditeurs. Kantara, le magazine de la Méditerranée. Cette semaine, une commémoration en ce temps de révolution, la révolution des œillets. C'était le 23 avril 1974, le point de départ. Un ras-le-bol des militaires, là des guerres coloniales, la déliquescence du régime du dictateur Salazar et la volonté de changement du peuple portugais. Le signal de ralliement, cette chanson, Grândola Vila Morena, de José Afonso.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Exterior d'Espagne.
Toujours bon de le rappeler, le magazine interméditerranéen Kantara est le fruit d'un travail commun fourni par 6 radios du pourtour de la Méditerranée et fruit de la complicité de leurs rédacteurs et responsables. Parmi ces rédacteurs se trouve à Bastia, en Corse, Pierre-Louis Alessandri. Pierre-Louis qui, depuis son observatoire Bastier, du moins c'est ainsi que je l'imagine, scrute pour nous la presse méditerranéenne toutes les semaines.
Regard sur la presse méditerranéenne. La revue de presse.
Très majoritairement, la jeunesse algérienne approuve la séparation de la religion et de l'État. C'est le titre du journal Al-Watan. Ce postulat d'une république laïque partagée par la jeunesse algérienne est le résultat d'un rapport de l'enquête Génération Wout Algérie. Le rapport a été réalisé par Belkacem Mostefaoui, sociologue des médias et professeur à l'École supérieure de journalisme d'Alger, dans le sillage d'une enquête financée par l'Union européenne sous le titre générique « Génération Wout », qui est le plus grand projet transmédia jamais entrepris, dessiner le portrait des 18-34 ans dans les pays du monde entier. Ce programme a ainsi été mis en place dans 8 pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Le sociologue algérien donne des chiffres statistiques que publie Al-Watan. Il y a en Algérie plus de 8 millions de jeunes de moins de 25 ans sur une population de plus de 42 millions. Le pays subit un chômage endémique dont les effets sont considérables et dangereux. Mais depuis le 22 février, la donne semble avoir changé. Il y a une ferveur patriotique rarement observée, écrit Belkacem Mostefaoui. 32% des jeunes estiment pouvoir être heureux sans croyance religieuse. 25% des filles partagent ce sentiment. Car l'un des thèmes majeurs abordés dans cette enquête porte sur la place du religieux dans la cité. Et selon le sociologue, 2/3 des jeunes Algériens interrogés sont contre l'interférence des religieux dans la vie publique. Égypte, le coup d'État permanent, c'est le titre d'un article paru sur le site Orient 21. Le Parlement égyptien s'apprête à adopter une réforme de la Constitution qui éradiquera les dernières conquêtes de la révolution de 2011 et permettra à Abdel Fattah al-Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2030, écrit le site. Reste cependant le rôle de l'armée. Un amendement pourrait lui permettre, je cite, « de faire sombrer le pays dans un bain de sang, comme ce fut le cas en Syrie, mais il lui donne aussi une couverture constitutionnelle pour renverser Sissi à la prochaine grave crise politique », écrit encore Orient 21. On vote ce week-end en Espagne pour élire un nouveau Parlement. Et si le Parti socialiste du Premier ministre sortant, Pedro Sanchez, est en tête dans les sondages, c'est le score de Vox, le parti d'extrême droite qui préoccupe. Il serait crédité de 12% des voix, mais le nombre élevé d'électeurs indécis, 41%, augmente le risque d'erreur et ce score pourrait être plus important. Vox fait sale comble dans chacun de ses meetings, écrit Le Monde, qui cite les propos de son leader, qui considère par exemple que les régions autonomes sont des cancers du pays. Il s'en prend aux féministes, à l'idéologie du genre, aux petits urbains animalistes et aux cosmopolites qui dicteraient leurs lois à une Espagne rurale. Pour conclure cette revue de presse à dominante politique, faisons un petit clin d'œil compatissant aux ânes de l'île de Santorin en Grèce. Les ânes de l'île grecque sont épuisés, éreintés par les touristes. C'est une information que donne le journal Ouest-France. Blessures, épuisement. À Santorin, les ânes qui transportent les touristes souffrent, leur sort interpelle depuis des mois et une campagne de prévention a été lancée pour sensibiliser les visiteurs. Les équidés gravissent la pente raide qui sépare le port du village Fira, accroché à flanc de falaise, et ils font beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Nous allons distribuer des brochures d'information, assure le maire de Santorin. Les associations se mobilisent. Et le gouvernement grec est intervenu. Désormais, les ânes de Santorin ne pourront plus transporter des charges qui excèdent 100 kilos. À propos, il existe un téléphérique à Santorin pour gravir la pente. Alors, laissons tranquillement brouter ces ânes et laissons le folklore de côté pour satisfaire des touristes qui ne font que passer.
Il resta au village, tout le monde l'aimait bien. Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin, image d'évangile vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'est terminée. Dans le fond du létal, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux.
Pauvre petits ânes, pauvre ami équidé, surexploité. Et dire que dans d'autres régions, pour conserver la race, on commence à organiser des parrainages. En Castille-la-Manche, par exemple, mais pas seulement, l'inquiétante disparition des mules et des ânes a amené les organisations de protection de la nature, de protection des animaux et du monde rural a tiré la sonnette d'alarme. Des refuges ont été créés, comme El Refugio del Burrito, qui, outre les collectes de dons, les campagnes de parrainage, les soins aux équidés abandonnés, maltraités, dénoncent sans relâche certains abus, justement des abus dus au folklore et dû aussi au tourisme, comme les burro-taxis du sud de l'Andalousie. Une question est cependant brandie par ceux qui considèrent ces initiatives, comment dire, exagérées. Attention, disent-ils, les animaux perdent leur fonction dans le monde rural. Et si l'on empêche leur utilisation pour le tourisme, ne court-on pas à leur disparition pure et simple. La décision du maire de Santorin est prudente. Au-delà d'un certain poids, prenez le téléphérique.
Plató listo, 14 cámaras.
Cámaras 6 y 7 tienen que dar su plano corto.
Luces y sonido.
Vicky, por favor, miradme el micro 18 que no me llega de RRF.
Para que mañana a las 10 comience el primer gran debate a cuatro de los principales candidatos a la presidencia del gobierno.
Muy buenas noches, uno de los cuatro candidatos que hoy nos acompañan será el próximo presidente del gobierno.
Y por cette campagne électorale en Espagne, l'organisation de débats télévisés politiques a été en soi un sujet de débat. La télévision publique avait renoncé à organiser le principal débat, celui entre les leaders des plus importantes formations politiques. La RTVE proposait en effet un débat à quatre sans la formation d'extrême droite Vox, considérant que cette dernière n'avait pour l'heure pas de présence au Congrès des députés. Entre-temps, le groupe de médias privés Atlas Media annonçait sa disposition à accueillir un tel débat à cinq. Les cinq leaders, secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier et chef du gouvernement sortant, Pedro Sánchez compris. Le débat est donc fixé au 23 avril 2019 sur Atres Media. Réaction de José Abascal, leader de la formation d'extrême droite, qui se plaint ainsi des propres médias.
Los medios de comunicación retorciendo nuestro mensaje, los partidos, y cuando ven que no pueden retorcer nuestro mensaje porque vamos a estar en un debate y nos van a tener que escuchar directamente, ¿sabes lo que hacen? Llamar a su cuerpo auxiliar, al separatismo que les ha apoyado en el gobierno a unos y a otros, pedirle que recurra a la Junta Electoral Central, que haga el trabajo sucio al PP y el PSOE y que nos expulsen de un debate en el que teníamos todo el derecho a estar.
Les médias qui dénaturent notre message, les partis, et lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas dénaturer notre message parce que nous allons être dans un débat et qu'ils devront nous écouter directement, vous savez ce qu'ils font? Ils appellent leur corps auxiliaire, les séparatistes qui ont soutenu le gouvernement des uns et des autres et leur demandent de saisir la commission électorale centrale, qu'ils fassent le sale boulot pour le compte du Parti populaire et du Parti socialiste et qu'on nous expulse d'un débat où nous avions tout droit d'être. En effet, les partis régionaux, nationalistes et non nationalistes, saisissent la haute instance électorale. La décision de cette dernière tombe dans la semaine précédant le débat. Vox ne peut pas participer au débat à 5. Elle donne raison à la RTVE qui décide alors d'organiser un débat à quatre, débat de leaders, les leaders de Podemos, du Parti Populaire, de Ciudadanos et Pedro Sánchez pour le Parti Socialiste sont d'accord. Mais, car il y a un mais, ce dernier pose une condition, que le débat ait lieu le 23 et pas le 22. Sur la radio-télévision espagnole. Il assure qu'il ne participera qu'à ce débat sur le plateau de la télévision publique.
La disyuntiva en la que estamos ahora mismo es si queremos que se celebre en un medio de comunicación público o en un medio de comunicación privado. El próximo día 23 de abril es el día que podemos todos los candidatos debatir.
La disjonctive dans laquelle nous sommes est de savoir si nous voulons que le débat ait lieu dans un média public ou un média privé. Le 23, c'est le jour où nous pouvons tous débattre. La direction de la RTVE accepte et le débat et la date, le 23 avril. Autrement dit, le même jour que les chaînes du groupe Atlas Media. Tollé général chez les autres participants et le groupe Atlas Media. Les trois autres participants et leurs représentants montent au créneau. Pablo Casado, leader conservateur.
No vamos a cambiar nuestros planes por mucho que Pedro Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos los españoles para su agenda.
Nous n'entendons pas, dit Casado, changer nos plans, combien même Pedro Sánchez veuille les instrumentaliser la télévision de tous les Espagnols pour son propre agenda. Irene Montero, numéro 2 de Podemos.
Primero despreciar a la televisión pública y después intentar utilizarla como una herramienta del gobierno para intentar tener un debate más fácil.
D'abord déprécier la télévision publique et ensuite essayer de l'utiliser comme instrument de gouvernement pour obtenir un débat plus facile. Inés Arrimadas, numéro 2 des libéraux de Ciudadanos.
No queremos a un presidente que haga de la televisión pública de todos los españoles una telepsoe.
Nous ne voulons pas d'un président qui fasse de la télévision publique de tous les Espagnols une telepsoe. Dilemme, comment organiser deux débats avec les mêmes participants, à la même heure, le même jour, la quadrature du cercle. La polémique est servie et certains n'hésitent pas à considérer que le secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol veut faire de la télévision publique une sorte de téléprésident sur le modèle vénézuélien. Et la grogne gagne alors les propres comité informatif du groupe public RTVE, télévision et radio comprises, qui revendique la liberté des choix de la télévision publique, qui, fût-elle publique, ne doit pas être aux ordres. Les rédacteurs s'expriment directement sur les ondes ou depuis les plateaux de télévision de la corporation. Le mécontentement est déclaré sans faux fuyant. Les syndicats leur emboîtent le pas. La direction générale vacille, d'autant plus qu'une grève était déjà programmée pour le 26 avril, pour d'autres raisons. Marche arrière du Parti Socialiste, le président Sánchez se résout alors à prendre part au débat du 23 à Atlas Media et au débat de la RTVE le lundi 22. Des politologues et analystes avertissent, deux débats, deux jours suivis, c'est trop, et trop près des élections du 28. Le débat du 22 avril restera dans la mémoire de la RTVE, le débat marquant un sursaut collectif des professionnels de ce média public.
Un debate que podrán seguir en la 1 de Televisión Española, el canal 24 horas, el canal internacional y rtve.es y se podrá escuchar en Radio Nacional, Radio 5, Radio 4 y Radio Exterior de España. 100 minutos de debate moderado por Xavier Fortes a partir de las 10 de la noche.
Ya viene por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva, viva y viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Yo quiero a Antonio Banderas como ministro del exterior. Serrat en su autonomía de presidente será el mejor. Para no pagar Hacienda pondré a Rosario en diputación. Y a Sabina con un lápiz que tome nota y declaración. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya!
El partido, ay, por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay, por la mitad.
Pantoja y Marta Sánchez para que entrenen la selección. Que Tama la barbería y Sorderita toquen mi son. Mientras que Manolo Tena busca palabras para esta canción. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Yo quiero a Pedro Almodóvar con las Chamorro en gobernación. Y Carmen nos dé alegría todos los viernes con su cupón. Los toreros con su arte que lidien bien esta situación. Y que venga Kevin Cornet pa' mayordomo de mi mansión. Ay que viva ya.
El partido, ay por la mitad.
Pero que viva y viva y viva ya.
El partido, partido, ay por la mitad.
Chef Musiqui.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical? Okay, a musical discovery.
Nous venons de le voir avec la revue de presse, les choses bougent sur la rive sud de la Méditerranée avec des avancées et des reculs, mais la vague est une vague de fond. Dinar Abdelmeghi nous propose cette chanson de Mohamed Mounir. El bel watan magrouh, le cœur de la patrie est blessé, il n'en peut plus.
مجروح لوحة
قلبي بين الشجن والقاه يلي لقاك حياة أنا حبي ليك صدار يا مطير العصافير رجع الهوى بالخير لو قلبي عدو مين ادي حنان ودديه لو قلبي عدو مين ادي حنان ودديه ده الصمت مش لينا فين الولد ما يروح لازم يعود اسمر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر ليك نجوم هيمة في حضن هلال لو بحرنا مسكين صحي وبوس عنيه لو بحرنا مسكين صحي بوس عنيه يا ما بكرة يسقينا خليه طريق البوح يصبح طريق مرمر قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر نهرب وفين حنروح لما الأمور تكتر
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Le Liban est le pays le plus francophone du Moyen-Orient. Toutefois, le marché du travail a ses exigences et les jeunes Libanais n'échappent pas à ce diktat. Aussi, l'initiative de coopération que nous révèle Nanette Ziadé est des plus intéressantes, surtout dans un domaine scientifique. Écoutons plutôt son reportage.
Améliorer la qualité des programmes et leurs réformes à travers la professionnalisation de filières est au cœur du projet issu de collaboration avec des facultés libanaises et l'Université de Montréal. Un projet qui corrobore la vitalité de la francophonie dans le monde et ses impacts sur la qualité de l'enseignement en général. Hervé Sabourin, directeur de l'Agence universitaire francophone au Moyen-Orient, précise les contours du projet.
Cette initiative est vraiment tout à fait intéressante. Il s'agit tout simplement d'un projet qui est initié par l'Université de Montréal au Canada et qui est en fait financé par les Affaires mondiales au Canada. Et le principe, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des universités libanaises dans le renforcement des compétences de leurs étudiants pour faciliter leur accès au marché du travail. Alors en l'occurrence, il s'agit de deux universités, l'Université Saint-Joseph et l'Université de Balamande. Et le travail qui va suivre va consister à s'occuper de cohortes d'étudiants, plutôt dans le domaine de la santé publique, on pense en particulier aux infirmières, et en fait de pouvoir les assister, organiser des formations, mais des formations de type très pratique, pour renforcer leurs compétences, leurs expertises et pouvoir les aider en fait dans leur insertion sur le marché du travail libanais.
Alors, on parle toujours en langue française, bien entendu.
Alors, ça se fait évidemment, et c'est évidemment tout l'intérêt de ce projet pour nous, c'est qu'il s'agit d'un contexte de la francophonie, hein, les Canadiens, enfin, en tout cas, le Québec est bien évidemment francophone. Et je voudrais préciser que l'Université de Montréal a sollicité l'AUF, c'est-à-dire l'agence que je dirige au Moyen-Orient, pour les aider effectivement à mettre en place ces différents dispositifs au Liban.
Est-ce que ça va supposer également un échange au niveau, par exemple, de la création de niches de formation professionnelle particulière en fonction du marché globalement francophone dans le monde ?
Alors écoutez, pour le moment, on n'en est pas là. On essaye en fait de développer, alors je parle de, quand je dis nous, c'est les francophones, hein, c'est-à-dire les universités francophones du monde, de développer dans certains pays, et notamment les pays dits du Sud, de développer effectivement des sortes de modèles qui seraient plutôt des modèles francophones d'accompagnement à la professionnalisation des formations. Donc on essaie de le faire à notre niveau à nous, avec nos compétences, avec les compétences de l'espace francophone. Et ça marche assez bien, puisque on peut constater que ce type d'initiative se développe assez rapidement actuellement dans les zones francophones du monde. Alors je parle bien sûr d'abord de l'Afrique du Nord, de l'Afrique en général, et puis effectivement aussi du Moyen-Orient, sachant qu'au Moyen-Orient, le pays par excellence de la francophonie, c'est le Liban.
Alors, est-ce que justement, c'est plutôt un avantage ou ça risque de jouer contre ce marché du travail, justement, que ça se passe en français ? Parce que s'il faut être réaliste, le Moyen-Orient actuellement est beaucoup plus anglophone que francophone.
Écoutez, on va tout simplement se fier au beau sens des Libanais. Les Libanais on maîtrise l'art de mélanger les langues. Et la francophonie, on va dire mondiale actuelle, a bien compris que les enjeux se situent à différents niveaux. On va pas, bien sûr, forcer le trait, c'est-à-dire exiger que tout se fasse en français. On sait bien qu'il y a des zones, notamment quand on touche à l'insertion professionnelle, qu'il y a des zones où il faut savoir pratiquer, on va dire, le bilinguisme, le trilinguisme. Donc, de ce côté-là, on va pas du tout être exigeant. Par contre, à chaque fois qu'on pourra effectivement utiliser notre savoir-faire francophone, on le fera. Hein. Tout en gardant en tête qu'effectivement, ben, il faut être flexible, c'est-à-dire accepter le fait que dans ce monde, le français est une des langues qui sont parlées. Alors, moi, je voudrais rajouter que ce qu'il faut bien faire comprendre à tous et à toutes, c'est que les questions qui touchent aux affaires, à l'insertion professionnelle et autres, sont des questions que la francophonie peut très bien prendre à sa charge. Mmh. Aussi bien, je dirais, que les autres communautés linguistiques.
Alors vous, Hervé Sabourin, votre travail se situe à plusieurs niveaux de pays dans la région. Vous n'avez pas que le Liban. Alors du coup, est-ce que les besoins sont à peu près les mêmes ou ils sont très différents d'un pays à l'autre ?
Je dirais que les besoins sont totalement les mêmes. Quand vous circulez dans tous les pays du Moyen-Orient, vous constatez bien sûr que la question de l'employabilité des jeunes, et en particulier des étudiants, est une question centrale et qu'elle traverse toutes les universités que je peux visiter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la façon d'approcher ce problème n'est pas forcément la même. Mmh. Et autant il y a des pays, je pense particulièrement au Liban, où il y a déjà un certain niveau de conscience de ces questions-là. Je dirais par exemple, si je parle de l'entrepreneuriat, je dirais que le Liban est relativement et même fortement avancé par rapport à d'autres pays. On dit souvent que les Libanais sont des entrepreneurs nés, ce qui n'est pas faux. Non. Et donc ça permet effectivement à ce pays d'avoir déjà un peu anticipé. Et ce problème est totalement différent dans un autre pays où je vais souvent, l'Égypte, où on a bien sûr en tête cette question d'entrepreneuriat ou les questions d'insertion, mais où on va dire que la réponse qui va être donnée va être beaucoup plus au niveau de l'État qu'au niveau, je dirais, du secteur privé. Alors qu'au Liban, pour des raisons qu'on connaît bien, les forces vives, pour résoudre ces questions, se trouvent au niveau effectivement plutôt du secteur privé. Donc vous voyez, les approches sont différentes. Si je prends un troisième pays où je vais régulièrement, c'est l'Iran, où là il y a une forme, je dirais, de réticence à utiliser des partenariats pour résoudre des problèmes internes. C'est-à-dire que on identifie bien que ces questions sont fondamentales aussi pour les jeunes Iraniens. Par contre, il est plus difficile de partager.
Merci Hervé Sabourin.
Merci.
une initiative de coopération francophone, ici libano-canadienne, qui ne peut que soulever l'intérêt. L'idée, comme l'avance Nanette Ziadé, est pourquoi pas des niches de formation professionnelle selon les spécificités des marchés du travail. Laissons l'expérience libano-canadienne se faire, avançons et observons. Il faudra ensuite tirer les conclusions. De Beyrouth à Meknès au Maroc, où nous invite à la foire de l'agriculture nos amis de la SNRT. Selma Saïdi et Younes Wadah se sont intéressés plus particulièrement à l'agriculture et à l'élevage écologique, souvent méconnus et considérés comme peu productifs par les agriculteurs et les éleveurs. Les consommateurs ne sont pas en reste d'ailleurs, puisqu'ils estiment d'emblée, le plus souvent, que les produits sont trop chers par rapport à ceux issus de l'agriculture intensive. Mais là, les choses sont en train, peut-être, de changer.
L'agriculture intensive telle qu'elle est pratiquée depuis des années a certes des rendements extraordinaires, mais elle épuise les sols et pollue l'environnement. Pour maintenir le même rendement, il faut toujours augmenter les quantités d'intrants, eau, matériel, pesticides et fertilisants. La prise de conscience récente des limites des ressources naturelles et de la pollution des sols, de l'air, de l'eau, pousse vers une nouvelle agriculture, l'agriculture durable. Au salon, plusieurs entreprises sont orientées bio, un engagement éthique et responsable pour apporter aux producteurs agricoles des solutions en adéquation avec leurs besoins, un engagement qui est d'abord bon pour les hommes, bon pour les sols et bon pour la planète. Ali Aïtassou est chef de zone dans une société suisse implantée ici au Maroc.
Nos partenaires au Maroc sont essentiellement des producteurs et nous ciblons toutes les cultures pratiquement, toutes les cultures qui existent au Maroc, à savoir les rosacées, les cultures céréalières, les grandes cultures, l'olivier, etc. Notre mission, c'est de fournir aux agriculteurs, aux producteurs de meilleurs produits de qualité qui leur garantissent une efficacité, une production élevée et une qualité, et aussi de les accompagner sur le terrain. Nous accompagnons chaque jour, nous avons un staff d'ingénieurs et de techniciens qui sont présents, qui sont efficaces sur le terrain et qui sont à côté des producteurs.
L'agriculture durable est en fait le retour moderne au principe même de l'agriculture ancestrale, sauf qu'elle devra faire ses preuves face à l'agriculture intensive. Si elle est plus raisonnable, elle ne peut présenter les mêmes rendements à court terme. Chérif Gsous est secrétaire général de la FIMA Bio. Il est venu au salon pour défendre l'agriculture biologique au Maroc.
Nous sommes aujourd'hui au SIAM pour défendre l'agriculture biologique, qui est une agriculture biologique, qui est un système de production qui permet de produire sans engrais chimiques, sans pesticides, sans OGM, qui permet de respecter le bien-être animal. Et nous voulons montrer aux consommateurs et aux différents décideurs et producteurs que c'est une agriculture qui est rentable, qui est efficace et qui est durable. Il y a plusieurs millions de producteurs dans le monde qui l'ont adopté et nous souhaitons que les producteurs marocains aussi adoptent cette agriculture car nous pensons que c'est l'avenir de l'agriculture.
Concrètement, des fermes pilotes pour une production de produits bio seront créées dans chaque région. La production sera, elle, commercialisée dans une chaîne de supermarchés au niveau national. Avec tous ces efforts, la filière biologique connaîtra peut-être de grandes évolutions. Depuis Meknès, Younes Louadah et Selma Saïdi pour Chaîne Inter.
Qu'est-ce que je vous disais ? L'espoir d'un plus grand respect de la planète et de notre santé est là. Merci Nadira et merci à Younes Louadah et Selma Saïdi. Après ce périple interméditerranéen, nous avons bien mérité une petite excursion, n'est-ce pas ? Comme celle à laquelle nous convie Maïda Sili aux îles Kouriates. Kézako ? Ou qu'est-ce que ça ? Pas de panique, nous sommes entre de bonnes mains, puisque Maïda nous guide.
Nous étions une dizaine invités par l'APAL, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, pour découvrir les îles Curiat. L'embarquement du port de Monastir s'est fait à 10h. 15 à 30 minutes après avoir quitté la rive, on commence à siffler sur le bateau pour attirer les dauphins. Car oui, nous étions escortés par des dauphins. Jamel Jrijer est chargé des aires marines et côtières protégées du centre au sein de l'APAL.
Alors on peut le voir qui habite dans ce coin-là. D'accord. Et s'approche toujours aux fermes aquacoles puisque les poissons qu'ils mangent sont aussi près des fermes aquacoles.
Après une heure de traversée, nous voilà arrivés à la petite île vers 11h du matin. La journée était parfaite pour faire de la baignade. Un ciel dégagé avec quelques nuages qui pourtant annonçaient une tempête pour la fin de la journée, ce qui n'a pas empêché les visiteurs de profiter de l'eau cristalline et de l'immense plage de sable fin. Hamid Malat, président de l'association Notre Grand Bleu et quelques bénévoles, nous attendaient. Les îles Curiat se caractérisent par une richesse et un potentiel écologique important. Les écosystèmes très variés, tant à terre qu'en mer, lui confèrent une importance cruciale au niveau national et méditerranéen. La tortue kawan, Careta careta, est l'espèce la plus emblématique des îles Curiat. Hamed Malat.
Careta careta, c'est la tortue kawan. Dans la Méditerranée, on a trois espèces. Mais pour les îles Curiat, c'est un site stable de nidification que de la tortue kawan. Careta careta, c'est le nom scientifique de cette espèce. Cette espèce est maintenant vulnérable parmi nos missions dans ce site et le suivi de la nidification de cette espèce pour garder la continuité et pour garder l'état et la conservation de la tortue kawan.
Et est-ce que c'est un objectif atteint, plus ou moins ?
Plus ou moins atteint, vu les efforts de tous les partenaires. De notre part, de l'association Notre Grand Bleu, à part le suivi scientifique, on utilise la tortue marine pour les sessions de sensibilisation. C'est-à-dire lorsqu'on se déplace toute l'année vers les écoles ou lorsqu'on se déplace vers les ports aussi, on communique, on sensibilise surtout les pêcheurs, on utilise cette espèce pour la valoriser chez eux. Avec la sensibilisation, même le pêcheur qui avant pêchait les tortues marines, maintenant elle amène la tortue blessée au centre de soins de l'NSTM, avec nous, pour les réhabiliter.
Les îles Curiat sont gérées par le Programme national de création d'aires marines et côtières protégées en Tunisie, initié par l'APAL. Asma Bengarga est chargée de la communication au sein de l'APAL.
Curiat, c'est un archipel composé de deux îles principales, la Grande Curiat et la Petite Curiat, là où nous sommes aujourd'hui. La Petite Curiat, c'est l'île la plus touristique. C'est pour ça qu'elle est accessible au public, pour les touristes, les Tunisiens et tout, pour venir passer la journée ici, se baigner.
Vous avez parlé d'une activité touristique. Est-ce que c'est une activité assez réglementée, qui prenne en considération les aspects naturels de l'île ?
Bien sûr, évidemment. Les touristes qui viennent ici n'ont pas le droit, par exemple, de passer la nuit ici. Ils sont obligés de partir avant le coucher de soleil. Ils n'ont pas le droit de toucher au nid de tortue. Ils n'ont pas le droit de toucher aux espèces terrestres. Ils n'ont pas le droit de pêcher, par exemple. C'est réglementé par le gestionnaire principal de l'île, qui est l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, parce que les îles Curiat sont un projet d'aires protégées marines et côtières. L'archipel Curiat est considéré comme le principal site de nidification de la tortue Careta careta. Les spécificités des îles Curiat, c'est une biodiversité marine remarquable. À part l'espèce Careta careta, les îles Curiat abritent plusieurs espèces marines menacées, rares, sur le plan méditerranéen et mondial. Je cite par exemple l'herbier de Posidonie, qui est une espèce qui prospère aux îles Curiat.
On en voit partout d'ailleurs.
Oui, on voit partout et heureusement. Le milieu terrestre également est riche. Comme vous voyez, ça constitue un paysage assez particulier. C'est une sorte de mosaïque, là où il y a de la verdure, de la terre. Ici, il y a une plage sablonneuse de 1000 mètres environ, qui constitue une très très belle plage, parmi les plus belles plages tunisiennes. Aussi, il y a les dunes, qui sont encore en très bonne santé. Les dunes qui sont une protection naturelle de la plage. Ici, c'est un écosystème à part. Comme vous voyez, une mer extraordinaire, clair, là où il y a vraiment l'accès du soleil sur le fond. C'est ça qui aide la biodiversité à être remarquable ici. L'archipel Curiat, c'est parmi les écosystèmes rares en Méditerranée, donc digne de protection et de conservation.
Après une pause baignade et une promenade des plus agréables, le vent s'est élevé en cette journée de septembre et il a commencé à pleuvoir. C'était déjà l'heure du retour et les visiteurs étaient comblés. Le mauvais temps n'a pas empêché les visiteurs ce jour-là de profiter de l'île et de passer une journée inoubliable.
Des dauphins, des baignades, de la faune marine, de la flore, rien n'y manquait, pas même la fameuse tortue Caleta Caleta, rendue célèbre. Nos amis auditeurs s'en souviennent sans doute, rendue célèbre par nos chers Pierre-Marie et Fatma Zahiri dans un échange désormais inoubliable, anthologique. Plus sérieusement, cet espace des îles Curiat est un espace récupéré, régénéré. Et là aussi, que vous dire ? L'espoir existe grâce à la simple, si j'ose dire, simple prise de conscience et observance de règles de conduite strictes. Les youyou sont non seulement permis, mais justifiés. Merci Maïeda.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Exterior de España.
Nous arrivons à la fin de ce Kantara, 29e de la saison, mais avant de prendre congé de vous, une chanson interprétée par Fouzia Zouglani, justement un jeune talent entre tradition et modernité.
Oh,
le moment de prendre congé. À la technique, à Madrid, se trouvait Pedro Belastegui, auquel les rythmes tunisiens n'ont pas l'air de déplaire, mais alors pas du tout. Et avant de partir, une chose, surtout n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook Kantara. Je vous assure que cela en vaut la peine. Et pour réécouter les programmes, retrouvez les podcasts de nos webs respectives. Pour la Radio Extérieure d'Espagne, il vous suffit de taper Kantara, rtve.es, Kantara, K2Kilo, rtve.es, et vous y êtes. Au revoir, à la semaine prochaine.